Bonjour à tous. Cette semaine, on va s'intéresser au cas des sites et des pages satellites en SEO. Comment on les définit? Est-ce que votre site est concerné? Est-ce que Google a un avis dessus et des guidelines à respecter? On en parle. En référencement naturel, les sites cherchant à s'adresser au moteur de recherche davantage qu'à l'internaute sont une mauvaise pratique. Le cas des pages satellites est clairement concerné, mais celui des sites satellites est plus flou, plus difficile à mettre en place dans un but de visibilité, et la plupart des situations sont assez courantes et tolérées dans l'écosystème naturel de Google. On va regarder aujourd'hui si ces pratiques de sites satellites ou de pages satellites qui fonctionnaient il y a 10 ans sont toujours d'actualité. Est-ce qu'on en fait sans le savoir? Est-ce qu'il y a un risque? La documentation officielle de Google désigne les abus les plus évidents et les plus clairement inutiles pour l'internaute. Les satellites sont des pages ou des sites créés pour un classement optimal dans les résultats de recherche en réponse à des requêtes spécifiques. Les satellites nuisent aux internautes car ils peuvent entraîner l'affichage de nombreuses pages similaires dans les résultats de recherche. Et ainsi, en cliquant sur chaque résultat, l'internaute est toujours redirigé vers la même destination. Les satellites peuvent également conduire les internautes vers des pages intermédiaires ne sont pas aussi utiles que la destination finale. Google nous donne ensuite quelques exemples de satellites. Plusieurs pages ou plusieurs noms de domaines qui ciblent des régions ou des villes spécifiques et qui canalisent les internautes vers une seule page. Ou encore des pages générées pour canaliser les internautes vers la partie utilisable ou pertinente de votre site. Enfin, des pages sensiblement similaires qui sont plus proches des résultats de recherche qu'une arborescence clairement définie et facile à parcourir. La page d'accueil est dupliquée autant de fois qu'il y a de villes à cibler par les requêtes imprimerie plus ville, sans réel service local puisque la société n'a aucune implantation physique. La grande majorité du site était donc composée de ce type de pages, dupliqué, inutile. Les pages créées n'ont aucune valeur ajoutée pour l'internaute, en plus d'être clairement mensongères. On est donc dans un cas de page satellite, comme défini par Google. Des pages créées pour un classement optimal dans les résultats de recherche en réponse à des requêtes spécifiques et qui nuisent aux internautes, car ils peuvent entraîner l'affichage de nombreuses pages similaires dans les résultats de recherche. Ce type d'abus flagrant a été traité par Google depuis 2012 par des mises à jour successives de son algorithme, dites les filtres Panda, qui s'attaquent à la qualité des sites web. La visibilité naturelle du site concerné a décliné continuellement en 2012 et 2013 au moment des déploiements de ces mises à jour. La perte concerne principalement les positionnements obtenus par ces pages satellites. Ces critères de qualité, qui étaient à l'origine réservés au filtre Panda ponctuel, sont désormais une partie intégrante de l'algorithme. Si un site suit ces pratiques, il ne sera simplement jamais performant dans les résultats naturels de Google, au-delà de son cœur de métier et de ses pages réelles. Les landing pages sont-elles des pages satellites? La logique des campagnes publicitaires en ligne amène les sites à créer des pages d'atterrissage pour leurs annonces, en général hors de la structure du site, mais souvent sans intention de positionnement en SEO. Bien que ces pages soient par définition satellites, le risque est négligeable tant que les proportions sont raisonnables. Parfois, on a même ces landing pages créées sur un sous-domaine séparé, par un outil dédié qui permet la création rapide de ces pages. Elles sont du coup vraiment autonomes et indépendantes, donc, et globalement séparées, donc pas une menace réelle pour le site principal en tout cas. Par contre, ce qu'il faut considérer, c'est plutôt une mise en œuvre intelligente de la pratique des landing pages pour croiser la logique SIA et la logique SEO. On voit souvent des sites e-commerce qui créent des pages dédiées pour dépasser les capacités de leur listing produit, tout en permettant un accès facile à ces pages par les visiteurs du site. En général, un site avec une technologie du marché assez courante, par exemple Salesforce Commerce Cloud, le template des listings produits est le plus riche en contenu parce que c'est un listing produit, du coup, et une sélection de produits, c'est ce que cherche l'internaute. On peut difficilement, par contre, l'améliorer par du contenu sans faire de modifications en passant par des développeurs. Donc des dépenses. Donc les limitations de ce style des CMS, surtout e-commerce, ça se dépasse par la création de landing pages dédiées où on mélange les intentions de requête informationnelles et commerciales, on a beaucoup plus la main dessus et on peut relier ces sites comme on veut, à d'autres pages, à les rentrer donc dans la navigation du site. La finalité, c'est d'aboutir à des pages complètes qui comportent du contenu informationnel, utile et une sélection de produits pertinentes, donc la meilleure page possible pour se positionner dans Google et aussi pour répondre aux liens de redirection des annonces, par exemple SIA. Si on regarde dans le secteur du travel, si on cherche vol Paris-New York et qu'on tombe sur le site Air France, on arrivera sur une page complète en contenu avec le maximum de choix dans l'offre proposée par Air France. Et cette page n'est pas qu'une landing page autonome, c'est une page maillée dans le site, accessible par un internaute normal. C'est donc une bonne pratique. Maintenant, regardons le cas des sites satellites. Une société peut être propriétaire d'un réseau de sites, mais les exploiter de plusieurs manières. Par exemple, un premier cas, des sites ciblés pour des requêtes spécifiques. Dans des secteurs très concurrentiels aux acteurs dynamiques en SEO, on trouve facilement des sites qui semblent peu naturels et qui se ressemblent. En général, on a l'exemple assez clair dans les services de type électricité, gaz, eau, assurance. On a des sites dont l'optimisation des pages est poussée au maximum au détriment de l'aspect visuel, à l'inverse d'un site de marque. On a des CTA évidents et relativement flashy au-delà de la ligne de flottaison. Beaucoup d'éléments de réassurance, des informations factuelles et chiffrées. On a également des modèles de pages qui sont très proches d'autres sites positionnés sur la requête, et parfois on a même la société, voire la marque propriétaire, qui est identique et clairement identifiée. Par exemple, sur la requête EDF Paris, je vous invite à regarder, on trouve deux sites appartenant à la même société, et ces deux sites sont en première page des résultats. Les deux sites, ça passe moins bien à l'oral, mais visuellement sont très proches. Très proches dans leur template, et on retrouve même la même photo en fond. Bien que ces pratiques semblent douteuses, et qu'on se retrouve réellement sur quelque chose qu'on pourrait considérer un site satellite, les pages positionnées sont informatives, les sites en soi sont riches en contenu informatif, et le contenu est unique à chaque site. Et enfin, les sites sont autonomes dans leur parcours client. On a un service téléphonique plutôt qu'un tunnel de conversion. Et au final, le service rendu aux yeux de Google est donc suffisant, malgré le peu d'intérêt objectif de servir ces informations plusieurs fois. Ce type de site est adapté à ce type de requête et jugé davantage pertinent que d'autres modèles, qui pourraient être par exemple des sites de marque aux services plus généralistes. Une autre situation, moins volontairement trompeuse ou bricoleuse, ce sont les sites informatifs de marque. La majorité des sites web à vocation commerciale doublent leur site marchand d'un blog. D'un point de vue SEO, ces sites de contenu informatif servent à cibler des requêtes informationnelles dans leur univers, mais que le site principal ne peut pas adresser, typiquement des guides d'achat, des tendances du secteur, ainsi de suite. La finalité, c'est naturellement d'amener le lecteur vers le site marchand. Ces sites sont autonomes, en sous-domaine, parfois en domaine indépendant, mais ils renvoient vers le site principal pour le parcours client. On a par exemple comme site indépendant le blog de Cdiscount Voyage, et on a comme sous-domaine par exemple le blog de Lydia. Ce n'est pas forcément considéré comme un site satellite, ça donne de l'information que ne donne pas le site principal, même si la finalité est d'amener au site principal. Enfin, on a des sites de marques indépendantes, mais qui appartiennent à une même société. Une société propriétaire de plusieurs marques peut-elle s'en servir pour capter davantage de visibilité et, au final, aboutir sur un même site ? On va voir. Alors, le modèle en soi n'est jamais dénoncé par Google dans ses bonnes pratiques. Il est courant dans des secteurs comme les médias, des réseaux de publications liés entre elles, pour un même groupe de presse par exemple, mais pour des sites marchands, c'est moins facile à identifier. On l'a par exemple pour la société Decathlon, qui a créé des marques autonomes pour chaque type de sport. On a par exemple la marque Kalenji, qui propose des articles de running. Elle a son site autonome, il est riche en contenu, donc en valeur ajoutée pour l'internaute. Par contre, le site ne propose pas de catalogue produit en soi. Il renvoie directement vers le site principal decathlon.fr dès qu'on a besoin d'aller en profondeur vers une fiche produit. Malgré ce fonctionnement, le site est performant SEO et confère vraiment une double visibilité à la société Decathlon entre le site kalenji.fr et le site decathlon.fr sur des requêtes transactionnelles assez fortes. Le site Kalenji en soi est 5e sur course à pied, alors que Decathlon est en page 2. Dans un fonctionnement commercial différent, on peut penser aux filiales de sociétés de voyage qui disposent d'un site autonome, mais dont le tunnel de conversion amène à un site différent. On a, par exemple, le site TGV Lyria, qui ne dispose pas d'un système de réservation propre, mais qui renvoie vers le site Oui SNCF, c'est-à-dire le site de réservation principal de la SNCF. Malgré ça, le site Lyria, en soi, est riche en contenu, a des pages de destination qui ciblent des requêtes très précises et pour positionner justement le site d'une manière indépendante. On tape train Paris-Genève, il est présent. Et on a toutes les informations nécessaires pour voyager entre Paris et Genève, choisir le bon TGV, mais on ne peut pas réserver directement sur le site. Ce site fonctionne parfaitement en SEO, indépendamment du site Oui SNCF.